Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est Naya Ouattéou, élue Les Loyalistes à la province sud et au Congrès. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation alors que le ministre des Outre-mer est en visite sur le territoire. Nous allons en parler, nous parlerons également de votre récent déplacement à l'ONU, notamment. Alors le ministre, vous l'avez rencontré ce matin avec le groupe Les Loyalistes. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Et peut-être quel est le message que vous avez voulu lui passer?
Alors oui, c'est un exercice qui est obligé, bien évidemment, et c'est important, et ça l'est d'autant plus dans le contexte dans lequel on se trouve aujourd'hui et au regard des premières annonces qui ont été faites par rapport à la situation. La position qu'on a tenue, nous, avec la délégation des loyalistes, c'était déjà dans un premier temps de faire entendre la voix des Calédoniens qui se sentent, et qui pour certains se sentent encore abandonnés. C'était important de rappeler la violence qu'il y a eu le soir de ce 13 mai et les semaines qui ont suivi. Et pour beaucoup, ce sentiment de ne pas avoir eu de réponse de la part de l'État. Important aussi pour nous de rappeler que les interlocuteurs étaient essentiels, notamment pour pouvoir sortir de cette crise que l'on rencontre. Donc la question de la sécurité était bien évidemment essentielle. Et puis parce que là aussi, c'est cette réalité qui s'impose maintenant à nous. C'est cette crise économique que l'on rencontre et derrière les perspectives qu'il est essentiel de pouvoir apporter aux Calédoniens. Et en ce sens, l'accompagnement de la France et le soutien de la France est essentiel dans cette démarche.
Alors justement, sur ces éléments que vous exposez, est-ce que vous avez le sentiment que l'État ou le ministre, en l'occurrence, a pris la mesure de la gravité de la situation, la gravité de ce qui s'est passé le 13 mai et dans les semaines qui ont suivi?
En tout cas, il a été très honnête lors de cet échange pour nous dire qu'effectivement, entre les différentes séquences qu'il avait pu faire auparavant et avant 13 mai, effectivement, cette réalité qu'il y a aujourd'hui, la situation s'était largement dégradée et qu'effectivement, il était sensible à ce que nous avons pu et nous vivons encore aujourd'hui. Donc, c'était important aussi de l'entendre, de se dire qu'effectivement, nous sommes entendus, nous sommes écoutés, mais derrière, nous sommes surtout en attente d'actions très concrètes.
Alors, est-ce que la réponse de l'État est à la hauteur? Peut-être d'abord sur l'ordre public, c'est l'un des points où vous dites qu'il faut rétablir la sécurité. Qu'est-ce que vous attendez de l'État aujourd'hui? Est-ce qu'il en a fait assez? On sait qu'on a un nombre de forces de l'ordre considérable.
Oui.
Qu'est-ce que vous attendez de plus aujourd'hui?
Ah bah déjà, je pense que sur la question de la sécurité, effectivement, les renforts sont arrivés, ils sont aujourd'hui présents. On a encore dans certains endroits de la province sud, et je pense notamment aux administrés du Mont d'Or, qui sont aujourd'hui un petit peu les oubliés, qui se sentent encore oubliés au regard de cette situation, qu'il était important que les effectifs soient maintenus et que derrière, la réponse en matière de sécurité, de sûreté, mais aussi derrière les actions de justice, parce que la clé, elle est aussi là, c'est qu'à un moment donné, lorsqu'on va chercher les fauteurs de troubles, derrière, ils puissent être pénalement responsables et que derrière, il y ait ce sentiment pour chacun d'entre nous d'avoir un État qui nous protège réellement.
Sur le plan économique, maintenant, alors on sait qu'il y a eu les aides d'urgence de la part de l'État. Le ministre a fait quelques annonces également, annonces supplémentaires hier. Est-ce que ça va suffire? Est-ce que vous croyez que l'aide sera à la hauteur, là encore, des besoins de la Nouvelle-Calédonie?
Je pense que c'est là aussi, il y a un discours qui est tenu, et il a été très honnête lors de cet entretien, où, en nous disant qu'effectivement, l'État serait présent pour accompagner la Nouvelle-Calédonie dans cette reconstruction qui est nécessaire, au travers d'accompagnement et de soutien. Nous sommes malgré tout vigilants à ces annonces qui sont faites. Effectivement, on parle d'un prêt consenti via l'AFD, mais derrière avec des garanties qu'il va falloir rembourser. Aujourd'hui, la situation de l'ensemble des collectivités est critique. Oui, on a besoin d'aide, mais par contre, il ne faut pas qu'elle vienne nous enterrer encore plus. Donc, il y a cette réalité aujourd'hui économique avec cette notion de relance qui est essentielle. Et on l'entendait encore hier au journal où on a ces chefs d'entreprise qui nous disent « on est prêt à reconstruire malgré ce qu'on a vécu ». À partir du moment où on a un accompagnement. Mais encore une fois, la question de la sécurité sera essentielle. Donc, il y a différents leviers qui doivent être entrepris. Il y a cette question aujourd'hui d'aider les entreprises qui tiennent encore debout malgré tout. On a quand même 800 entreprises qui ont été détruites, qui sont fragilisées, celles qui tiennent encore le coup, il faut pouvoir les soutenir, il faut pouvoir accompagner cette reconstruction, il faut pouvoir apporter des garanties et à travers ça, surtout des perspectives.
Justement, sur le chômage partiel, sur les assurances, l'État sera là, mais pour l'instant, il n'y a pas de réponse définitive. Il dit qu'il va faire ce qu'il faut, mais il n'a pas pu donner de garantie.
Bah c'est aussi sur ça qu'on a, dans le cadre de nos discussions, on l'a aussi pointé. Effectivement, le chômage partiel qui s'arrête à la fin du mois d'octobre, ça veut dire que derrière, on est sur du chômage total et derrière, on est sur de la perte d'emploi. Donc, nous avons mis sur la table ce point. La réponse qui nous a été faite, c'est on est bien conscient de la situation. Derrière, c'est avec Bercy aussi qu'il faut pouvoir discuter. On sait... attaché, je me suis personnellement attaché à rappeler peut-être un peu avec un engagement un peu, je sais pas comment dire ça, mais sans retenue, on va dire, au regard de la situation, en disant, enfin, il faut comprendre que les Calédoniens aujourd'hui, avec ce qu'ils ont vécu, ne sont pas une ligne dans un tableau comptable. Et qu'à un moment donné, cette réalité qu'ils ont vécue et qu'ils vivent encore aujourd'hui, et je pense notamment aux chefs d'entreprise ou à ces gens qui ne savent pas si demain ils auront encore un emploi, que c'est la question des perspectives, elle est essentielle et l'État doit le prendre en compte et Bercy doit aussi le prendre en compte.
Et François-Noël Buffet vous semble avoir compris, reçu le message ?
Oui, sincèrement, oui, je pense. Je pense qu'après, il est quand même essentiel que derrière, on vienne rappeler cette réalité et que c'est le rôle qu'on a, nous, en tant qu'élus, systématiquement, avec ces différents interlocuteurs, de rappeler la réalité calédonienne aujourd'hui, ce que vivent les Calédoniens, et qu'effectivement, on n'est pas qu'un dossier sur un coin de table.
Alors, deux volets, deux thématiques essentielles dans ce voyage, étant donné les circonstances, l'économique et puis le politique. Alors, au chapitre politique... Le ministre devait venir expliciter la décision du Premier ministre de reporter les élections provinciales. On rappelle qu'elles devaient avoir lieu avant le 15 décembre 2024, que finalement elles vont être reportées sans doute au 30 novembre 2025. Vous êtes favorable, vous, à ce report ? C'était indispensable ou vous auriez été prêt à les tenir à la fin de l'année ?
Le vrai sujet, c'est de savoir dans quelles conditions on veut que se tiennent ces élections. Et pour nous, il y a deux faits qui sont incontestables et sur lesquelles on ne bouge pas. C'est déjà, un, qu'elles se tiennent dans des conditions de sécurité qui soient autrement que celles qu'on a pu vivre ces dernières années. La question de la tenue de ce scrutin dans des conditions aussi qui soient, on va dire, dans les règles et pas avec une forme de triche qu'on a pu voir à certains moments. Et
puis, vous pensez cette question... au deuxième référendum ou aux élections législatives
aux élections législatives, où là aussi, je pense qu'il faut arrêter de se voiler la face. En plus, les images, on les a vues. On est dans une période qui est cruciale, qui est importante. Enfin, on n'est pas un pays du tiers-monde dans lequel on vient falsifier les urnes. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il y a aussi cette question-là. Et c'est un travail qu'on fait, notamment au sein des formations non indépendantistes, pour pouvoir interpeller systématiquement sur ça, de faciliter le mode d'accès dans le cadre de futures élections, sur la question des bureaux de vote, sur l'accessibilité et la liberté pour chacun de pouvoir s'exprimer dans des conditions qui soient acceptables. Et puis le deuxième point qui pour nous est non négociable, c'est la question du corps électoral. Les choses ont été très claires, le Conseil d'État a rendu son avis, la question du gel du corps électoral aujourd'hui est finie, il faut qu'on puisse avoir un corps qui soit ouvert et que l'ensemble des Calédoniens puissent s'exprimer.
Mais alors comment est-ce qu'on peut arriver à ce dégel ? Parce qu'on a bien compris qu'il n'y aurait pas de convocation du Congrès de Versailles sur la loi telle qu'elle existait. Ça veut dire que le dégel ne peut se faire que par concertation, par négociation, par un accord politique ?
Dans tous les cas, il faudra qu'on discute, ça c'est sûr. Mais je pense que personne ne doit douter du fait que, pour ce qui nous concerne, les choses ont été très claires sur la question du gel du corps électoral. Sur les conditions, à un moment donné, qui ont été faites au travers de l'accord de Nouméa, sur le caractère transitoire, le caractère exceptionnel, tout ça maintenant est terminé. Et encore une fois, cette décision du Conseil d'État doit s'imposer à tous, qu'on le veuille ou non. On parle de droit.
Et donc, il va falloir trouver une solution, effectivement, pour le dégel. Pour l'instant, personne n'a encore vraiment la réponse. La reprise des discussions sur l'avenir institutionnel, c'est aussi un objectif. Le président de la République a parlé de novembre pour les reprendre. Là encore, est-ce que c'est possible ? Et peut-être, question encore plus fondamentale, avec quels interlocuteurs ?
La question de la reprise des discussions, elle est essentielle. Et pour le coup, nous, on n'a jamais été en absence à cette table des discussions, bien au contraire. Mais vous pointez un sujet qui est essentiel, c'est la question des interlocuteurs. Est-ce qu'on est prêt à discuter avec tout le monde ? Oui, avec tous ceux qui ont envie de travailler à une sortie de crise et à faire en sorte que demain, ce projet de Nouvelle-Calédonie dans lequel on s'inscrit, puisse être à l'image de celui qui a été accepté par les Calédoniens au travers des trois référendums. Il n'est pas question qu'on aille discuter avec des personnes qui ne sont pas dans la construction, qui ont même été à l'initiative de la destruction de ce pays et qui aujourd'hui doivent en porter la responsabilité. Nous sommes prêts à discuter avec toutes les personnes qui seront engagées dans cette démarche de pouvoir reconstruire la Calédonie, de pouvoir accepter cette expression qui a été faite par l'ensemble des Calédoniens, de pouvoir vivre dans une Calédonie qui soit dans son autonomie, rattachée à la France, avec l'exercice de son autonomie et avec un projet de société dans lequel tout le monde se retrouve et où il n'y a pas d'exception faite, il n'y a pas d'ethnie au-dessus des autres, un projet de société viable, pérenne. Et je pense que tout le monde attend cela avec impatience et encore plus après ce qu'on vient de vivre.
Pour être clair, est-ce que ça veut dire que vous excluez l'Union calédonienne ou une partie de l'Union calédonienne de ces discussions autour de la table ? Est-ce que certains d'entre eux ne peuvent plus, pour vous, être des interlocuteurs ?
Je pense qu'il faut, il faut discuter avec ceux qui ont envie de discuter. Il y a une rupture de confiance, faut pas se voiler la face, et même à l'échelle du plan politique. On a discuté avec des personnes qui, à un moment donné, nous semblaient être dans une démarche où on va trouver un accord, on va trouver des solutions, puis finalement, qui derrière étaient en train de manœuvrer pour qu'on arrive à cette situation du 13 mai. Ça, c'est plus possible. C'est plus possible, et ça, on l'oubliera pas non plus. Mais notre responsabilité, c'est de pouvoir amener la Nouvelle-Calédonie à se sortir de la situation dans laquelle elle est. Et je leur dis encore une fois, et c'est peut-être avec beaucoup de naïveté parce que c'est mon premier mandat et que je le vis comme ça, mais on a cette obligation de trouver une solution. On le doit aux Calédoniens, on le doit aux Calédoniens qui ont voté pour nous, on le doit aux Calédoniens qui n'ont pas voté pour nous aussi. Cette obligation de trouver une solution et une sortie qui soit acceptable et correcte, c'est une évidence qui doit s'imposer à nous. Et c'est là où je pense que la question de responsabilité, elle est aussi essentielle pour chaque homme et chaque femme qui s'engage en politique, et encore plus dans cette période qui est la nôtre.
Est-ce que les indépendantistes sont prêts, selon vous, à revenir autour de la table ? On a vu que ces dernières années, ils ont tout fait pour différer un petit peu le moment où on arriverait à cet accord.
Il y a eu effectivement un jeu à un moment donné. Alors après, légitime ou pas légitime, je pense que ça leur appartient à eux de le juger. Mais encore une fois, le 13 mai a rebattu les cartes. Et on le voit aujourd'hui dans les échanges qu'on peut avoir avec le gouvernement, qu'on peut avoir avec l'UNI. Il y a quand même un fait, je pense, avec la visite du ministre qui est à noter. C'est le président de la province Nord qui accepte de recevoir le ministre. Ça faisait des années que ce n'était pas arrivé. Bon, ben, j'ai envie de le prendre comme un signal positif et de me dire, OK, ben, là aussi, on a des hommes et des femmes qui sont en responsabilité. Et pour le coup, oui, je l'UNI, ces derniers temps, a quand même été très en force, j'ai envie de dire, dans cette volonté de pouvoir discuter. On est là et on sera là. Et encore une fois, c'est dans l'intérêt de tous que l'on doit aujourd'hui œuvrer et manœuvrer pour pouvoir sortir la Calédonie de cette impasse dans laquelle elle se trouve.
On va revenir un moment sur l'actualité peut-être plus économique avec les plans de reconstruction qui existent. Il y en a au moins deux en Nouvelle-Calédonie. Le plan quinquennal voté par le Congrès qui demande 500 milliards de francs à l'État. Vous, les loyalistes, vous l'avez voté, mais vous ne vous êtes pas associé à la délégation transpartisane oui. interinstitutionnelle qui est allée à Paris. Et puis, il y a le plan PS2R du gouvernement, dans lequel vous sentez le plus à l'aise, lequel vous défendez, lequel vous semble le plus efficace pour la Calédonie.
La question, ce n'est pas savoir si on en défend un plutôt que l'autre ou pas. Je pense que dans la situation dans laquelle on se trouve, dans tous les cas, de ne pas se positionner pour un appel à l'aide auprès de l'État sur des financements, ou en tout cas sur la capacité de pouvoir se sortir de cette crise, elle n'a pas lieu d'être. Effectivement, sur la question du plan 2024-2029 qui était présenté au Congrès, on est sur une proposition de résolution, on est effectivement sur des propositions qui sont faites. On a échangé avec les différents groupes politiques au sein de l'hémicycle du Congrès. Pour nous, il y avait quand même deux préalables, en tout cas deux conditions. La première, c'était que ça doit se faire dans le consensus le plus large. On doit quand même pouvoir porter une voix unanime auprès de l'État lorsqu'on veut aller lui demander de l'argent, parce que derrière, il y a une situation qui est celle qui en est, encore une fois, avec chacun sa part de responsabilité là-dessus. Et puis l'autre point, c'était les conditions. Parce qu'à un moment donné, si c'est pour que ce soit encore les Calédoniens, dans le cadre des différentes conditions, qui se retrouvent à devoir assumer parce que derrière, ça sera des taxes supplémentaires pour pouvoir compenser le déficit qu'on va avoir. Ça, ce n'était pas acceptable non plus. Donc, effectivement, on soutient la proposition qui est faite lorsqu'elle passe au Congrès. La question de la délégation, d'être là, de ne pas être là, encore une fois, je pense que là aussi, c'est un sujet qui n'amène pas à débat. Le point qui arrive à ce moment-là, c'est de se dire on va aller discuter avec un gouvernement qui n'est pas encore installé, les interlocuteurs vont changer. Et je reviens encore sur l'importance des interlocuteurs. Derrière, on a un programme, en tout cas un plan qui est présenté par le gouvernement. Et là aussi, qu'on appelle en responsabilité depuis un petit moment maintenant, qui fait ce travail-là, auquel nos élus abondent aussi dans le cadre des discussions. Je pense qu'il faut, quand même faire preuve d'humilité à un moment donné sur ces deux plans. Enfin, on est dans une situation, et c'est aussi un petit peu ce qu'on a expliqué au ministre tout à l'heure, et là encore avec aussi beaucoup d'émotion. Enfin, on est dans une situation où aujourd'hui, on est en train de solliciter l'aide, mais on est presque à la limite en train de mendier, quoi. Enfin, et ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça peut pas non plus être à n'importe quelle condition. Et je pense que c'était important aussi de le rappeler. Je pense qu'il faut qu'on garde ça en tête. On a aujourd'hui une volonté et une nécessité de pouvoir sortir de la situation dans laquelle on se trouve. Ça ne se fera pas sans l'aide de la France. Il faut en être conscient. Mais derrière, ça ne peut pas être non plus à n'importe quelle condition.
Sans l'aide de la France, c'est-à-dire, on a l'impression que les indépendantistes l'ont compris aussi et sont d'accord sur ce point.
Je pense qu'ils n'ont pas vraiment le choix, en fait. La réalité, elle est là. Et c'est aussi le discours qu'on peut entendre au niveau du gouvernement. Donc, on a tout intérêt. Mais encore une fois, je le dis, pas à n'importe quelle condition et certainement pas un effort qui devra être supporté par les Calédoniens à qui on demande encore beaucoup aujourd'hui.
Mais il va falloir des réformes de fond du système.
Oui, et c'est nécessaire. Et encore une fois, sur les réformes qui sont demandées, et j'entendais là aussi l'intervention du ministre lors de la présentation du plan PS2R qui a été fait au Centre culturel Chibaou, la France sera là pour accompagner, effectivement, pour soutenir, mais elle attend aussi du gouvernement des mesures très concrètes. Mais ces mesures-là, ça fait 4 ans, nous, qu'on les demande au gouvernement. Je fais juste un petit parallèle avec ce qu'on vit à la province sud, là aussi. Enfin, encore une fois, on n'a pas attendu d'être en crise pour pouvoir enclencher ces mesures. Depuis 2019, c'est des réductions drastiques qui ont été faites. C'est à un moment donné, on a fait aussi ce toilettage. C'est du non-renouvellement de postes à chaque fois. C'est une réduction massive parce que derrière, il y avait la volonté de pouvoir soutenir l'investissement parce que, encore une fois, et je pense que sincèrement, c'est ce qui a sauvé en partie la province, même si aujourd'hui elle se retrouve en grande difficulté, mais ce qui lui a permis d'absorber les différentes crises successives qu'elle a vécues. La crise Covid, la crise politique, mais là aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est aussi la crise de trop parce que derrière, il y a un petit peu une forme d'injustice, j'ai envie de dire, dans ce qu'on demande aujourd'hui aux collectivités d'entreprendre et en particulier à la province. On demande à tout le monde de faire des efforts. Mais ces efforts, la province, elle n'a pas attendu le 13 mai pour le faire, elle le faisait déjà avant. Et pourtant, aujourd'hui, on conditionne cet accompagnement, ces aides, au fait qu'elles fassent les mêmes efforts que doit faire le gouvernement, que doivent faire les communes, que doivent faire les autres institutions. Il y a un caractère un petit peu... Je veux dire, oui, on oublie un petit peu le travail qui a été engagé. Et encore une fois, sur ces mesures qui doivent être prises aujourd'hui pour la province, où justement on travaille à l'amélioration et au bien-être des administrés, aujourd'hui on n'a plus les moyens parce que quand bien même on a fait ces actions auparavant, aujourd'hui on est tributaire d'actions qui ont manqué à un moment donné du gouvernement. Donc ces mesures, elles sont même plus nécessaires, elles sont vitales. Elles sont vitales.
Votre actualité, Naya Wateou, c'est aussi votre déplacement à l'ONU. Vous êtes intervenu au début du mois à la tribune de la 4e commission des Nations Unies à New York. Ça fait 3 ans que vous y allez, que vous allez parler là-bas. Là, vous avez voulu parler en vérité, avez-vous dit, en déclarant que par la force et la violence, les indépendantistes ont fait voler en éclats 30 ans de paix. C'est comme ça que vous voyez ce qui s'est passé le 13 mai ?
Personnellement, c'est comme ça que je l'ai vécu, oui. Et c'est vrai que sur ce travail qui est fait depuis maintenant 3 ans auprès de l'ONU, je ne sais pas si les Calédoniens ont vraiment perçu ce pourquoi considéré qu'il était essentiel d'y aller. Il faut savoir que la Nouvelle-Calédonie est inscrite depuis très longtemps maintenant sur la liste des pays à décoloniser. Et avant 2019, finalement, c'était une tribune qui était exclusivement prise par les indépendantistes. Dans le contexte dans lequel on se trouve aujourd'hui, et finalement au sortir de l'accord de Nouméa, c'était essentiel de pouvoir aller aussi expliquer et exprimer ce projet que l'on porte pour la Nouvelle-Calédonie et aussi cette réalité. Alors, devant une tribune qui est quand même assez particulière, effectivement, alors il y a la commission de décolonisation des 24 qui émet un rapport qui est ensuite validé par la commission, la quatrième commission, avec cette possibilité de pouvoir aller pétitionner et d'expliquer les choses. Et encore une fois, sur la question des interlocuteurs, c'est important aussi parce que depuis 3 ans maintenant qu'on y va régulièrement, finalement, je ressens, et par les différents témoignages, un changement dans la manière dont on traite le dossier calédonien. Parce que quand vous avez pendant des années un discours qui est exclusivement victimaire de la part des indépendantistes qui s'expriment devant les commissions, avec des comparatifs, hein, on va comparer des pays qui sont en état de guerre civile, où le viol collectif est une arme de destruction, et puis vous avez le petit dossier calédonien qui est traité de la même manière, ça c'est pas possible. Et je considère que c'était notre rôle, et celui que j'ai porté depuis 3 ans, de dire non, ça se passe pas comme ça. La France ne s'implique pas de la même manière dans la décolonisation de la Calédonie, et puis surtout d'aller expliquer que décolonisation ne veut pas dire indépendance. Il y a aussi ce travail-là qu'il est important de faire avec les Calédoniens pour qu'ils comprennent un petit peu aussi la démarche qu'on entreprend.
Et la vision de l'ONU a changé, d'après vous, depuis ces années où, effectivement, les non-indépendantistes font entendre leur voix ?
En tout cas, les résolutions qui sont portées, elles tendent à expliquer et à exprimer le fait que le processus de décolonisation dans lequel s'inscrit la Nouvelle-Calédonie se passe dans les meilleures conditions possibles. Alors certes, avec, et ça a été noté, les incidents qu'on a pu remonter lors du deuxième référendum ou la question de la revendication, en tout cas du caractère illégitime du troisième référendum, mais finalement, la France est décrite comme exemplaire dans son processus de décolonisation qu'il appartient, et je pense que ça c'est important aussi, qu'il appartient aux parties prenantes en Nouvelle-Calédonie de pouvoir travailler ensemble, trouver un accord et porter ce projet de décolonisation vers les différentes solutions qui sont possibles. Les différentes solutions, c'est quoi ? C'est effectivement l'indépendance, pure et simple, l'indépendance association ou la question de l'intégration dans la Constitution. C'est ce travail qu'on engage, nous, de notre côté, en portant cette voie-là, en ayant aussi ce travail et vraiment de vérité. Et encore plus, et peut-être encore là de manière très personnelle depuis ce qui s'est passé le 13 mai, ce travail de vérité, d'exprimer au sein de cette instance ce que les Calédoniens ont vécu dans leur chair, dans leur quotidien, la violence qu'il y a pu avoir sur au travers de ces exactions. Mais encore plus aussi sur cette déchirure qu'ils ont pu vivre et que certains vivent encore au quotidien, et d'expliquer que malgré tout, ce pays, on a envie de le construire, on a envie d'y vivre, qu'on ne se voit pas vivre ailleurs. Moi, c'est aussi ce que j'ai voulu exprimer. Je ne peux pas m'entendre dire, si tu n'es pas d'accord avec mon projet d'indépendance, rentre chez toi. Et j'ai ressenti cette... alors déjà, parce que lors du 13 mai, des exactions du 13 mai, nous étions déjà en session et en séminaire, et nous avons vécu à distance tout ce qui s'est passé, et pour le coup la C24 a vraiment été le dossier calédonien, a été le sujet de ce séminaire-là. Il y a vraiment eu ce sentiment que les choses se passaient pas de la meilleure façon, mais qu'en même temps on essayait de trouver des solutions. Et finalement la résolution de l'ONU, c'est quoi ? C'est ça se passe bien, continuez à discuter entre vous. Et finalement, ça nous va bien. Ça nous va bien.
Alors, ce sont des exercices très codifiés. Vous avez 3 minutes, je crois, pour intervenir. Oui. Voilà. Donc, vous étiez plusieurs loyalistes à intervenir. Et puis, il y a des indépendantistes qui sont intervenus après vous, avec une drôle de délégation, parce qu'en fait, il n'y avait pas d'élus indépendantistes à la tribune cette fois-ci.
Oui, bah, on en revient à cette importance d'avoir toujours les interlocuteurs, parce que effectivement, ça s'est très vite ressenti. Alors, Moi, depuis 3 ans maintenant, j'interviens régulièrement et je fais ce travail de coordination, en tout cas d'échange avec les différents pays membres qui siègent au sein de ces commissions. Derrière, l'idée, c'est quand même bien d'y aller accompagné parce que ça multiplie aussi ces 3 minutes qui sont une frustration. Je pense qu'il faut comprendre 3 minutes pour pouvoir dire l'essentiel. Bah, finalement, quand on est plusieurs, on arrive à faire passer beaucoup plus de messages. Sur la question de la composition de la délégation indépendantiste, j'avoue que moi, j'ai été la première surprise, parce que déjà, je n'ai pas retrouvé les interlocuteurs que j'avais l'habitude de voir depuis 3 ans maintenant et qui y sont depuis un certain temps. J'aurais pas la prétention d'analyser si c'est une problématique en interne ou autre, mais effectivement, la composition de la délégation telle qu'on la voit, telle qu'on l'a vue sur cette séquence, c'est des représentants de Innat Nekanaki, avec dorénavant, voilà, pour ceux qui ne le savent pas, on a un roi, donc le roi de Gouré-Chaba en la personne de M. Hippolyte Sinewami.
Avec une tenue coutumière qu'on avait...
Oui,
pas eu l'occasion de voir.
Bon, ça lui a fait plaisir, très bien. C'était complètement décalé par rapport à l'instance dans laquelle on siège. Enfin, cette revendication identitaire, j'ai envie de dire, elle est entendable lorsqu'on va à l'UNESCO, à Genève. Là c'était décalé. Je ne suis pas convaincue que ça ait vraiment marqué, que ce soit au sein de cette commission, mais même que c'ait été très bien pris ici en Nouvelle-Calédonie. Ensuite, sur la composition, donc on a bien vu des prises de parole au nom de Innat Nekanaki, donc qui est la dissidence du Sénat coutumier, deux représentants du Sénat coutumier, mais qui visiblement, enfin, on sent bien que c'est un peu la tranche dissidente du Sénat, mais qui n'a pas encore vraiment basculé. L'avocat du Sénat coutumier qui prend la parole. Et puis derrière, des interventions faites par des élus outre-mer qu'on a identifié aussi parce que en fait ce qu'on voit surtout émerger c'est cette intégration dans les discussions de ce groupe d'initiative de Bakou avec là aussi des prises de parole de la Guyane, de la Martinique. Quand on sait aujourd'hui ce qui se passe en Martinique notamment, c'est inquiétant. Alors après sur les interventions, il faut quand même noter que la présidente de la 4e commission, après les interventions des intervenants outre-mer, leur a quand même dit que c'était quand même bien que chacun s'occupe de son île. Donc je pense que c'est important de le ramener aussi parce que nous, on y va avec ce discours de vérité. Eux, ils vont avec un discours qui est très victimaire et qu'on considère comme étant mensonger à certains niveaux et notamment au regard des actions que peut entreprendre la France pour protéger les Calédoniens. Mais c'est important que les choses soient aussi remises dans leur contexte. Et ce travail, aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'il aboutit parce que derrière, je le vois au travers de ces résolutions qui confortent, en tout cas, et encore une fois, qui tendent à expliquer la réalité, c'est-à-dire que le processus de décolonisation se passe, que décolonisation ne veut pas dire indépendance, et que cette décision, elle incombe avant tout aux Calédoniens, et que par 3 fois, cette décision, ils l'ont prise.
Alors justement, après les 3 référendums, est-ce que la France doit demander le retrait de la Nouvelle-Calédonie de la liste des pays non autonomes, des territoires à décoloniser?
C'est essentiel, parce qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse aussi sortir de ça. Donc à chaque fois aussi, on en parle et on l'évoque, on attend que ces résolutions soient prises. À partir du moment où la résolution est prise, je pense que là, il faudra qu'on monte d'un cran, nous aussi, et qu'on acte définitivement cette sortie de la Nouvelle-Calédonie de la liste des pays à décoloniser.
On va revenir en Nouvelle-Calédonie et en province sud, puisque vous avez une autre casquette, vous occupez des transports urbains. Les dégâts depuis le 13 mai ont été très importants, notamment dans les transports. Quel est l'état du réseau aujourd'hui?
Bon, je pense que ça aura échappé à personne, effectivement, que le réseau aujourd'hui, il est en grande difficulté. Alors après, on part
Qu'est-ce
aussi...
Qu'est-ce qui est abîmé? Ce sont les bus, les arrêts de bus?
À notre grande chance, les bus n'ont pas été touchés. Mais en fait, c'est surtout des dégâts sur les infrastructures. Des infrastructures qui sont spécifiques et qui, en fait, se chiffrent très, très vite là aussi. L'autre réalité, c'est que le réseau, il était déjà en difficulté avant. Pas mentir aux Calédoniens sur ce dossier-là. La crise est venue mettre un coup d'arrêt sur la viabilité de ce réseau. Parce qu'on part quand même, et j'ai eu l'occasion de le dire, d'une bonne volonté à un moment donné de pouvoir structurer et moderniser un réseau de bus. Mais encore une fois, en allant peut-être... en voyant les choses de manière un peu trop grande. Et finalement, de faire porter un financement de ces structures à des collectivités qui, en plus d'avoir d'autres enjeux et d'autres réalités, devenaient très compliquées. Le 13 mai est venu complètement rabattre les cartes sur les besoins en termes de transport, parce qu'encore une fois, on va mettre des bus là où on a un besoin. Quand vous avez des écoles qui sont détruites, vous ne pouvez plus emmener vos enfants à l'école parce que l'école n'est plus là. Un collège, un lycée, un centre administratif, une zone commerciale comme Ducos, comme Kenuin, le besoin, il change complètement. Donc, on a tout ce travail à faire parce que derrière, on a des contrats avec les différents délégataires que sont Carouya et Carsud, et qu'aujourd'hui, on n'est plus en capacité de pouvoir assumer ce réseau. Déjà parce qu'il ne répond plus à la demande et parce que la réalité pour les collectivités à financer ce réseau, il n'est plus possible. Rapidement, la province, elle finance 50% du réseau. Les autres communes se partagent les autres 50% restants. Mais c'est 5 milliards par an. 5 milliards par an pour aujourd'hui un réseau qui a complètement éclaté. Et c'est pour ça que très vite, les décisions ont été prises, un, de suspendre, parce que la question de la sécurité
Ça a été suspendu complètement pendant de nombreux mois.
4 mois, et derrière la résiliation, parce qu'on n'a pas d'autre choix sur la viabilité.
Et alors, comment ça se passe, la reprise, la réorganisation? Maintenant, il y a quelques bus qui roulent quand même.
Oui, alors on est sur une résiliation avec derrière des discussions qui ont été faites avec les deux délégataires. J'ai un délégataire Carsud qui a signé un avenant parce que derrière, encore une fois, on pouvait plus tenir les lignes telles qu'elles étaient avec la réalité qu'on a aujourd'hui, qui fait cet effort-là de réduire son niveau de ligne et derrière. Un autre délégataire qui n'est pas dans cette démarche-là, et je le regrette profondément, parce que l'arrêté, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les usagers qui sont impactés, parce que derrière, on leur fait croire que les bus vont partout, et ça, c'est pas vrai. Et derrière, parce qu'on les met en défaut de sécurité, très clairement. Aujourd'hui, moi, j'ai des retours. Quand on dit qu'il y a des zones dans lesquelles on ne peut pas encore aller aujourd'hui, comme Rivière-Salée, comme Tindu, on décide d'y aller, le résultat, c'est quoi? C'est qu'il y a des caillassages sur les bus, et que la sécurité des usagers, elle n'est pas garantie, et encore moins la sécurité des agents. Ça, c'est irresponsable.
Il y a le coût des bus aussi. Il y a le coût, le coût du transport. Alors,
évidemment, oui.
Vous qui rentrez de New York, il paraît que le bus est plus cher à Nouméa qu'à New York.
Oui, cette comparaison est juste hallucinante. Nouméa, ce n'est pas New York. Je pense que ça aura échappé à personne. Alors, de là à venir comparer le réseau, mais au-delà de ça, ce n'est pas la question du tarif qui devrait faire débat. C'est sur la capacité. La question, c'est on veut continuer à avoir des bus qui roulent ou pas? Parce que c'est la réalité dans laquelle on se trouve. Je pense qu'il y a un travail qu'on n'a pas fait auparavant sur la question du prix du ticket. Et de rappeler aux gens que le ticket moyen qu'ils avaient avant 13 mai, le prix du ticket à 350 francs, pour 70% de ce prix-là, c'était les collectivités qui le payaient. Et les 30% restants, c'était les usagers. Aujourd'hui, les collectivités, elles ne peuvent plus payer. Et pourtant, elles font l'effort de continuer à en prendre 50% à leur charge. Donc oui, effectivement, on demande cette contribution supplémentaire aux usagers, mais parce qu'encore une fois, c'est ce qui fait qu'on a encore, on essaie encore d'avoir des bus qui circulent. Je rappelle que cette mesure, elle est transitoire. Elle doit nous permettre derrière de continuer à assurer un service minimum, mais que derrière, il va falloir qu'on est déjà en train de le faire, de réfléchir au réseau qu'on va devoir mettre en place, au futur réseau, dès février 2025, avec la tarification
pour la rentrée scolaire.
Oui, voilà.
Mais quelle solution? Parce que jusque-là, il y avait quand même un réseau qui était remarquable. Alors peut-être surdimensionné, peut-être pas adapté, mais enfin, il satisfaisait tout le monde.
Ce réseau, il était... Alors oui, effectivement, même avec une prise en charge du ticket à 70% par les collectivités, on avait quand même un réseau qui fonctionnait, moderne, avec des lignes qui allaient partout. Et même là, les gens s'en plaignaient aussi. Donc, cette réalité qui s'impose à nous aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il va falloir qu'on retravaille complètement la carte des transports.
Il faut tout remettre à plat.
Alors, on part pas de rien, heureusement. Nos bus sont présents, la technicité est là. Je fais juste une petite parenthèse et j'en profite pour remercier, pour saluer le travail des agents du SMTU qui, depuis le début de cette crise, sans relâche, sont à l'œuvre pour pouvoir faire en sorte que ce réseau puisse continuer à vivre, avec qui on n'est pas tendre sur les réseaux. Mais voilà, je voulais saluer leur travail, leur professionnalisme sur ce plan. la carte, elle va foncièrement changer. La capacité des collectivités à pouvoir financer le réseau, elle va être cruciale dans ce nouveau plan qu'on va devoir organiser. Aujourd'hui, on est sur un effort qui était demandé principalement aux communes, une partie sur les taxes qu'on percevait, et puis l'autre part sur les usagers. La réalité, c'est quoi ? C'est qu'on a des collectivités, on le sait, on le répète, qui vont être dans l'incapacité de pouvoir subvenir à ça. On a une perception sur ces taxes qui va être compliquée à gérer, et pour le coup, on n'a absolument pas de visibilité, parce que derrière, la situation de la Nouvelle-Calédonie va forcément avoir un impact sur notre capacité à générer de la fiscalité. Donc finalement, et au retour, ça va être compliqué. Et puis la part des usagers avec des emplois en moins, des besoins qui vont être conséquents. Donc on a tout ça à remettre dans cette nouvelle réalité qui va être la nôtre. Donc je pense que la nécessité de mettre en place un réseau, elle va être là. On ne peut pas être une ville comme Nouméa et se dire que demain, on ne met pas de bus au service de ses usagers, ou de Dimbéa, ou de Païta, ou du Mont-d'Or, et à l'échelle de la province. Mais il y a des besoins qui vont être essentiels et des choses qu'il va falloir mettre en place. Et puis, il y a surtout dans ce contexte, peut-être des pistes qu'on avait commencé à aborder, mais sur lesquelles on n'allait pas vraiment, comme la mutualisation, par exemple, de structures. Je pense SMTI, SMTU. On a ce schéma des transports qu'on attend encore. Aujourd'hui, on a des entreprises, on a un secteur aérien qui est en difficulté, un secteur du transport routier qui est en difficulté, un secteur maritime qui est en difficulté. Peut-être qu'il est le temps de regrouper tout ça, de mutualiser et de vraiment travailler la question de la mobilité et de faire en sorte que dans cette volonté de relance que l'on a de l'économie, parce qu'on parle aussi là d'économie, les Calédoniens puissent se déplacer à un prix qui soit raisonnable, mais à un prix qui soit peut-être un peu plus juste que ce qu'ils connaissaient auparavant, en tout cas avec cette nouvelle réalité.
Beaucoup, beaucoup de travail en perspective. Naya Wateou, merci d'accepter cette invitation dans le travail de transparence.